France Musique. Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Et en ligne avec nous, l'un des grands ténors français qui fait une carrière internationale, l'un des grands aminots de notre époque notamment. Bonjour Stanislas de Barbeyrac.
Bonjour.
En mars et avril, vous auriez dû chanter Don Ottavio dans Don Giovanni à l'Opéra de Paris, dans Alceste de Gluck en ce moment à Munich, et puis un autre Gluck à la rentrée toujours à Paris dans Iphigénie en Tauride. Depuis plusieurs semaines, depuis 3 mois même maintenant, Stanislas de Barbeyrac, que faites-vous?
Eh bien, je suis papa à plein temps, ce qui m'arrive peu, donc ça fait aussi du bien. Voilà, je m'occupe de chez moi, je m'occupe de mes enfants. J'ai 3 enfants, dont une petite qui est née au mois de décembre, donc je la vois grandir, ce qui est une très bonne chose. Mais j'avoue que la scène me manque énormément, donc parfois les journées sont un peu longues, puisque mes enfants sont retournés à l'école, ce qui est une bonne chose également. Donc je retrouve un peu de temps pour moi, pour retravailler ma voix, pour travailler mes rôles, pour travailler les prises de rôles qui vont arriver cette saison. Je croise les doigts pour que tout se maintienne. Ça a été du temps familial surtout, ce qui fait aussi du bien, mais j'avoue que là j'ai besoin de reprendre le train et de rencontrer des gens et de travailler avec des chefs et des metteurs en scène.
Stanislas de Barbeyrac, vous êtes membre d'Unisson, ce collectif dont on a déjà parlé sur France Musique, de 200 chanteuses et chanteurs lyriques. Est-ce que vous nous rappelez, sans en être le porte-parole, mais vous en êtes l'un des membres, quelle est la raison d'être de ce collectif?
Bien, effectivement, moi j'ai adhéré assez spontanément à cette association de chanteurs parce que c'était un manque, je crois, d'avoir une cellule comme ça où l'on puisse échanger, avoir des conseils surtout, parce que vous comprenez bien que la situation est quand même catastrophique pour les chanteurs.
On va en parler.
Et que surtout on a besoin de conseils, de comprendre les décrets qui tombent de la part du gouvernement, de comprendre le rapport de force qui est installé entre un chanteur et un employeur, le rapport de force qui n'a pas forcément que des mauvais côtés, mais c'est comme ça que ça se passe pour un chanteur lyrique indépendant, c'est-à-dire que l'intermédiaire c'est notre argent artistique. Donc on n'a pas tous les tenants et les aboutissants dans cette négociation, et donc enfin, alors il existait une cellule effectivement syndicale au sein du SFA pour les chanteurs lyriques, mais la création d'une association était un moyen aussi, on va dire, plus fédérateur pour que la parole des chanteurs se libère, et de façon aussi constructive.
Vous employez l'adjectif catastrophique. Aujourd'hui, les chanteuses, les chanteurs lyriques sont particulièrement lésés par la crise et par ses conséquences en annulation de spectacles. Par exemple, qu'est-ce que vous proposent les théâtres en rémunération, en dédommagement?
Bah oui, pour être tout à fait transparent, la situation est catastrophique parce que on remarque, notamment par le biais d'Unisson, parce que quand on adhère, on a accès à un site qui est très bien fait justement avec un forum actif où à peu près les 200 ou 250 membres communiquent et parlent des réalités de terrain. Donc moi j'ai pu constater que la situation était au plus bas. Alors il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont tapé aux portes auprès de leur tutelle pour les régies municipales, notamment parce qu'il faut savoir que le paysage des maisons d'opéra en France est quand même très varié, donc il y a des structures juridiques différentes, donc tout le monde n'a pas le droit à la même chose, le chômage partiel, il y a beaucoup de théâtres qui n'y ont pas le droit. Donc effectivement, pour les employeurs aussi, la situation est catastrophique parce que certains se bougent, comme je le disais, pour avoir essayé de payer leurs artistes au maximum entre 70 et 100%. Mais on se rend compte que quand même, dans ce panel, la plupart des gens, on est entre 0% et 40% des rémunérations.
Ce qui pour vous n'est pas acceptable.
Ce qui pour nous n'est pas acceptable parce que si on prend le cas de certains théâtres, il y a des forces artistiques en présence des gens qui sont titulaires et qui sont salariés et qui sont chez eux avec des salaires à 100%. Donc pourquoi les artistes invités devraient être la variable d'ajustement d'un budget qui, on peut le comprendre, est serré étant donné le Covid et le manque de recettes, mais pourquoi nous, pourquoi les artistes invités des chœurs, les artistes invités de la technique, voilà, ces gens-là ont des contrats précaires et il faut le souligner, autant que les artistes invités, parce que nous on pâtit d'une image un peu de chanteurs qui gagnent bien leur vie et qui devraient pas se plaindre, mais la réalité du terrain n'est pas celle-ci du tout. La réalité des terrains, c'est que les chanteurs lyriques, évidemment, il y a une poignée d'artistes, mais c'est une niche extrêmement petite, qui gagnent bien leur vie, mais qui, malgré tout, ont des problèmes quotidiens parce qu'ils ont 3 mois, voire 6 à 9 mois de boulot qui s'annulent parce qu'il y a des choses la saison prochaine qui sautent. Donc, la plupart des artistes, quand même, sont des gens qui gagnent très moyennement leur vie et qui ne sont pas intermittents. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui vont être sur le carreau. Et notamment, il y a des gens sur le forum qui ont dit qu'ils allaient changer de métier. Donc, donc je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme parce que ça, c'est pas possible.
Vous, Stanislas de Barberac, ces dernières semaines, vous n'avez rien touché?
Non. Moi j'ai rien. Je suis intermittent du spectacle, mais je touche du bois jusqu'à maintenant. J'ai quand même peu travaillé en France et les seules fois où j'ai travaillé en France, j'ai travaillé dans des grandes maisons qui me permettaient d'avoir beaucoup d'heures. Donc mon statut s'est fait facilement, mais malgré tout avec un taux assez bas. Et le fait est que quand on gagne bien sa vie, et c'est bien normal, les intermittents du spectacle sont plafonnés. Donc ne touche donc ce qu'on appelle une carence. Donc moi je suis en période de carence et donc je ne touche pas d'assurance chômage. Donc moi je suis quelqu'un de plutôt raisonnable qui ne vit pas au-dessus de ses moyens. Donc j'avais épargné de l'argent sur mes saisons passées, donc ce qui me permet de tenir aujourd'hui. Mais pour la plupart des chanteurs, je le répète, moi je suis quelqu'un qui est tout à fait conscient de son niveau de carrière et de la chance qu'il a d'avoir du travail. Mais il y a beaucoup, moi je suis là aussi pour parler de gens qui ne sont pas intermittents, qui sont tombés dans la mauvaise case au mauvais moment à cause de l'intermittence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu faire leur statut. Alors l'année blanche actée par le président de la République a été une solution, mais malgré tout les modalités techniques qui s'appliquent pour cette année les blanches, on les attend encore. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience qu'il y a tout un secteur d'activité qui est dans la douleur en ce moment, vraiment.
Stanislas de Barberac, je rappelle que l'intermittence, c'est les 507 heures par an que doivent faire les artistes. Et donc cette année blanche, ça prolonge d'un an ces heures à faire. Vous étiez programmé dans le rôle de Tamino dans La Flûte Enchantée au Met Opéra New York la saison prochaine. Le Met a annoncé qu'il allait débuter sa saison le 31 décembre. Vous allez chanter finalement? Vous savez déjà?
Alors, ma première était le 31 décembre, donc je pense que celle-ci saute. Les répétitions ont été décalées et la production aura lieu, mais avec un nombre de spectacles inférieur et un peu plus loin dans le temps, et avec une période de répétition raccourcie et pas la production qui était prévue. Ce sera la production maison finalement.
Celle de Julie Taymor et à l'Opéra de Paris. On vous retrouvera normalement en février dans La Belle Flûte Enchantée, dans la mise en scène de Robert Carsel. Mm-hmm. On voit votre visage en écran géant. Pour finir, Mozart, justement, mais dans La Messe en Ut, c'est votre prochain disque. Il sort en juillet. On en écoute un extrait avec les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. Des concerts sans mise en scène, des concerts comme une messe en Ut de Mozart, c'est une solution à court terme peut-être? D'un mot?
Alors oui, c'est une solution dans la mesure où il est très important qu'on remette les pieds sur scène et qu'on retrouve un mécanisme de travail. Hein. Ça, c'est extrêmement important pour les artistes parce qu'il faut qu'on garde aussi notre niveau. Dans son salon, c'est compliqué. Donc voilà, je pense que c'est important. Mais à l'avenir, si cette forme-là se perdure, il faudra aussi les régler avec des contrats de travail précis parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la brèche du « comme c'est un format simplifié, les rémunérations doivent être simplifiées aussi. Je crois qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table pour que ces nouvelles formes trouvent un cadre légal bien contenu.
Merci Stanislas de Barberac.
Merci à vous, merci beaucoup.
Oh,
Un extrait de la messe en ut de Mozart, Quoniam, avec Anna Maria Labine, Ambroisine Bray, Stanislas de Barberac, notre invité, et les musiciens du Louvre, dirigés par Marc Minkowski. C'est un disque qui sort début juillet.
À réécouter sur francemusique.fr.